Radio G. 101.5 FM.
Bienvenue à Solidaire Monde, l'émission préparée par le collectif Solidaire Monde, qui donne la parole aux acteurs de la solidarité sous toutes ses formes, ici et ailleurs, un jeudi sur deux, de 19h à 19h30 sur Radio G 101.5 FM. La solidarité se manifeste entre les hommes principalement, mais la défense de l'environnement et du patrimoine peut être considérée aussi comme une forme de solidarité entre l'homme et son milieu, naturel ou bâti par lui, dans lequel il vit. Pour parler de cela, Solidaire Monde a invité la Sauvegarde de l'Anjou, représentée ce soir par Claire Vial, secrétaire, et Jean-Claude Hippolyte, vice-président. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
La Sauvegarde de l'Anjou est une vieille institution, si on peut dire, puisqu'elle a été créée en 1965, mais a connu plusieurs phases dans son développement. Alors Jean-Claude, je crois que vous voulez nous parler un peu de son histoire.
Alors on peut raconter un petit peu son histoire. Donc comme vous dites, 1965, elle s'est créée sous le nom de la Sauvegarde du Vieil Angers. C'était une association qui avait vocation à défendre le bâtiment, le patrimoine bâti de la Doutre. À l'époque, la municipalité voulait raser un certain nombre de vieux bâtiments de la Doutre pour en faire des constructions, pour construire des bâtiments neufs, un peu à l'image de la rue Saint-Nicolas. Et donc cette vieille, cette Sauvegarde du Vieil Angers est devenue Sauvegarde de l'Anjou et Fédération départementale en 1973.
Ah, c'est une fédération.
C'est devenu une fédération d'associations pour la protection du patrimoine, et c'est en 78 qu'elle a été reconnue par un arrêté préfectoral qui a été depuis renouvelé, et dernièrement en 2017, et c'est une fédération départementale de protection de la nature et du patrimoine bâti et végétal. Et donc aujourd'hui, nous sommes une fédération de une vingtaine d'associations, comme la Ligue de protection des oiseaux, Place au vélo, la Sauvegarde de la Loire-Angevine, et puis plus récemment, des jeunes associations comme Solidary Food ou Candé Patrimoine Environnement. Donc voilà, et donc nous sommes aujourd'hui une association qui a adhéré à France Nature Environnement. Nous représentons sur le département de Maine-et-Loire France Nature Environnement. Nous avons en particulier une administrative qui est au bureau de France Nature Environnement. Et il y a une dizaine d'années, nous sommes fédérés au niveau régional avec la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Mayenne, pour créer une association, une fédération régionale, et de pouvoir embaucher deux permanents, un animateur et un juriste.
Très bien. Donc c'est une organisation bien structurée, localement, régionalement.
Tout à fait.
Bien. Alors, donc, ça fait 50 ans, hein, un peu plus même, que la Sauvegarde de l'Anjou existe. Elle a mené, je pense, beaucoup de campagnes, hein, de sensibilisation, de défense du patrimoine, d'aménagement du territoire. Alors, pourriez-vous nous parler un peu de ces campagnes, en évoquer quelques-unes, en tout cas, pour nous montrer vraiment quels sont les objectifs de la sauvegarde?
Alors, le but de la sauvegarde, c'est la protection de l'environnement, à la fois végétal, naturel, bâti, donc de la biodiversité. Nous avons un grand ensemble de domaines de compétences ou d'interventions. Ça peut passer donc du bâti, mais ça traite aussi des questions de mobilité, de déplacement, d'urbanisme, de protection de l'eau, l'eau, la qualité, la quantité de l'eau, les risques aussi industriels, les questions d'agriculture, de pesticides, les questions aussi de déchets, et puis les questions de biodiversité, la protection par exemple de la végétation, la protection des arbres, la protection des zones humides. Donc nous avons tout un ensemble de compétences et de domaines d'intervention.
Vous avez un grand éventail finalement d'interventions, quoi.
Et nous avons aussi beaucoup d'adhérents et un conseil d'administration composé d'une quinzaine de personnes ayant des compétences acquises à la fois sur le terrain et puis des compétences aussi de leur profession initiale.
D'accord, donc si j'ai bien compris, ça suppose que vous ayez effectivement beaucoup de personnes compétentes pour mener à bien toutes ces actions-là.
Tout à fait, ouais.
On va en parler un petit peu plus tard.
D'accord.
Voilà. Alors, merci. On va marquer une première pause musicale. Je crois qu'on va écouter...
Respire, Mickey 3D.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire.
Alors, toutes ces actions effectuées dans des secteurs très divers supposent, me semble-t-il, une certaine façon de travailler, non, une certaine méthodologie, si on peut dire. Également, bien sûr, beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. Alors, Claire, expliquez-nous, à l'aide de quelques exemples, comment procède la sauvegarde dans ces différentes missions?
Alors d'abord, en ce qui concerne l'organisation, la méthodologie, on va dire, la sauvegarde s'appuie déjà sur des ressources humaines permanentes, puisque nous avons, comme l'a précisé Jean-Claude, deux salariés, France Nature Environnement Pays de la Loire, des services civiques également, hein, et puis les stagiaires. Au-delà de ça, il y a un conseil d'administration constitué de 15 personnes bénévoles ou ayant des compétences professionnelles certaines ou des compétences qui ont pu être acquises au cours du temps par l'expérience. Puis il y a des moyens, si on peut dire ainsi, dont la présence des bénévoles dans différentes structures, à savoir l'association est présente dans des commissions locales, ALM, départementales, préfectorales, régionales, conseil de développement, la Comcom, Césaire, commission inondation, enfin voilà, beaucoup de participation, des commissions, des comités. Et puis nous avons des outils également, on peut l'appeler ainsi, les enquêtes publiques auxquelles nous répondons et sur lesquelles les bénévoles travaillent. On regarde leurs compétences en établissant des remarques, des conseils, des avis qui sont pris en compte. Et puis enfin, dernier élément dans la méthodologie, je pense qu'il y a aussi le fait que nous pouvons être interpellés par les habitants, par les citoyens, sur un certain nombre de sujets. Et donc, parmi ces sujets, il y a à peu près maintenant une année, en 2018, le méthane sodium sur la commune Loire-Authion, Brun-sur-Authion, qui a eu malheureusement le malheur d'atteindre plus de 70 personnes. C'est un biocide qui était répandu sur les cultures maraîchères. Eh bien,
Pourquoi on faisait ça? Quel était le but de ce biocide? Et préparer le sol, c'était quoi?
Oui, préparer le sol et en particulier détruire tout ce qui pouvait être néfaste à la culture de ces tout simplement de la mâche.
C'était de la mâche,
voilà,
c'était
de la mâche. Oui. Et donc les habitants soucieux ont interpellé la sauvegarde qui à ce moment-là leur a apporté les conseils, les informations et les a aidés aussi à se structurer en collectif. Et puis au-delà de ça, par, les campagnes, les communications dans la presse locale, régionale, voire nationale, et le fait que nous ayons déposé plainte, eh bien, aujourd'hui, on peut être tout à fait satisfait que ce biocide, aujourd'hui, est à la fois interdit à l'usage, à la vente et en termes de stockage. Voilà une des actions menées par la sauvegarde. Il y en a d'autres, bien sûr.
Alors, c'est une action assez exemplaire, mais vous faisiez allusion au fait qu'il faut développer beaucoup de compétences. Alors, les bénévoles qui viennent à la sauvegarde, ce sont des personnes qui ont précisément ces compétences.
Oui, qui ont.
Alors, parmi elles, pouvez-vous indiquer les besoins qui ressortent à ce niveau-là?
Alors, il y a des bénévoles qui ont des compétences en termes d'urbanisme, d'autres dans le domaine agricole, d'autres qui ont des compétences en ce qui concerne notamment les ressources en eau. Entre autres, la sauvegarde participe de manière assez régulière au SAGE, au comité locaux de préservation de l'eau, et elle est intervenue durant d'ailleurs tout l'été, puisque vous savez que l'été 2019 a été particulièrement atteint par la sécheresse, tant du point de vue météorologique qu'hydrologique. Et l'intervention de la sauvegarde a été en direction notamment des dérogations que le préfet a pu accorder, malgré l'arrêté cadre sécheresse qui avait été pris, permettant ainsi aux agriculteurs de prélever de manière importante durant tout l'été pour arroser, entre autres, leur culture céréalière intensive et entre autres dans la vallée de l'Authion. Alors depuis, évidemment, il n'y a plus de sécheresse aujourd'hui, mais c'est quand même un bien que nous partageons tous et nous restons vigilants, en tout cas les personnes qui sont partie prenante dans ce comité restent vigilants aujourd'hui encore pour intervenir de façon à ce que ce bien reste un bien solidaire.
Alors, je crois qu'il y a eu aussi une autre campagne, si on peut dire, à l'origine de laquelle se trouve également l'opinion publique. Récemment, sur la ville d'Angers, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été abattus pour les besoins de l'urbanisme, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Et beaucoup de riverains ou de citoyens, en tout cas, ont réagi à ce massacre, entre guillemets, et la sauvegarde s'est trouvée un peu aussi impliquée. Alors, pouvez-vous nous dire comment les choses se sont passées concrètement?
Alors oui, en effet, les arbres sont tout à fait emblématiques de la préoccupation citoyenne et illustrent la vigilance des habitants pour leur préservation. Et donc au départ de l'action, c'est vraiment une mobilisation de citoyens de tout âge confondu, toute catégorie sociale confondue, habitants des quartiers, inquiets de voir notamment les arbres qu'ils ont toujours connus être abattus, entre autres. Et le fait emblématique a été la défense notamment du séquoia nain, boulevard Bédier, entre autres, hein, qui a été là aussi l'intervention des habitants, hein, autour de ce séquoia. On peut citer également la mobilisation des habitants par rapport au parc Sainte-Anne, au Pont-de-Cé, avec notamment ces abattages d'arbres pour installer des résidences. Voilà, donc c'est souvent des mobilisations, pas toujours, hein, bien sûr, mais c'est le cas.
Là, vous avez accompagné,
La sauvegarde, justement, accompagne ces habitants, ces collectifs, quand ils sont constitués. Et la preuve, c'est qu'à partir de là, nous avons mobilisé, face à ce sujet prégnant, la population, mais aussi des scientifiques, pour réaliser un inventaire à partir d'une application sur smartphone qui marche très bien, hein, puisque les gens se sont mobilisés, et que cette application permet de répertorier aujourd'hui une grande partie des arbres remarquables ou à remarquer sur la ville d'Angers, et l'objectif étant notamment de l'étendre au département.
Bien. Alors, il faut espérer que cela aura un impact futur sur tout ce qui concerne les plantations d'arbres et les protections des arbres également.
Tout à fait.
Alors, donc, en quelque sorte, la sauvegarde joue un rôle de sentinelle vigilante. Hein. Mais au bout du compte, quel impact a-t-elle auprès de ceux qu'on appelle les décideurs, hein. C'est-à-dire, comment vous considère-t-il? En un mot, êtes-vous écouté, suivi ou... Jean-Claude.
Oui, pas toujours, mais quelquefois. Il faut savoir quand même que nous sommes une association, une fédération qui est reconnue et qui dispose d'un arrêté, d'autorisation préfectorale. Nous avons également des reconnaissances au niveau de la région, de l'Adréal en particulier, donc... ministère de l'écologie, de l'environnement. Nous intervenons, comme disait Claire, nous intervenons lors des concertations préalables, lors des consultations, au moment des enquêtes publiques. Et quand notre avis n'est pas suivi et que, d'un point de vue législation de l'environnement, nous pensons être dans notre bon droit, nous attaquons, nous estons, comme on dit, juridiquement, auprès du tribunal administratif. Je prendrai un exemple qui date de quelques années. Au début des années 2000, la sauvegarde est arrivée sur des questions d'urbanisme par le plan de déplacement urbain de la ville d'Angers. Ce plan de déplacement et ce PLU qui était établi par la municipalité d'Angers avaient vraiment sous-estimé la prise en compte du patrimoine bâti, hein, comme on citait tout à l'heure, à l'exception peut-être des monuments classés, mais tout le patrimoine bâti était sous-estimé. Et puis, il y avait également un affaiblissement de la protection des espaces boisés classés, tel point que, par exemple, la diminution de 50% des espaces boisés classés entre le POS, les anciens POS, et le PLU. Et puis il y avait aussi un impact très important sur l'habitat et sur l'agriculture, l'habitat de la roseraie, avec le projet de Rocade Sud. Donc nous n'avons pas été considérés, notre avis n'a pas été considéré, nous avons donc déposé un recours au tribunal administratif de Nantes, qui a vu et qui a prononcé quelques années après, en 2009, l'annulation du PLU. Et vous voyez que notre combat, je dirais, ou notre préoccupation pour la protection des espaces boisés n'est pas récente, ne date pas de 2018, mais plutôt de 2005-2006 sur les PLU précédents.
En fait, vous avez essayé de façon très très légale, hein, en utilisant les mêmes armes, si on peut dire, hein, que ceux auxquels vous vous adressez.
Et pas toujours vis-à-vis d'une collectivité, on le fait également vis-à-vis des arrêtés préfectoraux que peut prendre donc, le préfet, quand ça ne respecte pas
la justice. On vous écoute.
C'est pas on nous écoute, c'est le tribunal administratif qui nous donne raison. C'est... voilà. Donc, après, notre avis compte aussi au démarrage dans les concertations préalables, sachant que, bon, nous n'hésitons pas à aller au tribunal administratif.
Si c'est nécessaire. Bien. Merci pour ça. C'est très, très intéressant de savoir comment vous procédez. Alors, avant de terminer, nous allons marquer une deuxième pause musicale. Nous écoutons
Les Cowboys Fringants. C'est un groupe québécois.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage...
Alors tout ce que vous venez de nous dire, Jean-Claude Éclair, a sûrement donné envie à nos auditeurs d'en savoir plus sur la sauvegarde de l'Anjou, et peut-être se demandent-ils comment vous rejoindre. Alors, comment pouvez-vous leur donner quelques indications?
Alors, ils peuvent nous rejoindre, bien sûr, à partir en consultant le site de la sauvegarde de l'Anjou. Nous rejoindre aussi sur les réseaux, puisque nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter. Et puis enfin, nous avons une permanence, 14 rue Lyonnaise, à Angers, qui est assurée le jeudi de 14h à 17h par des bénévoles. Je dis bien, par des bénévoles. Voilà où on peut nous retrouver. À plusieurs
occasions. Le siège de l'association, c'est bien 14 rue Lyonnaise.
14 rue Lyonnaise.
D'accord. Alors, vous avez fait allusion au site. Il y a aussi un courriel, bien entendu, un email.
Oui, bien sûr.
Et pouvez-vous nous rappeler le site, par exemple?
Alors là, je...
Et le piège?
On va sur, sur tous les moteurs de recherche.
Vous tapez
sauvegarde de l'Anjou et vous tombez en plein pile de souhait dessus.
Oui. Parfait.
Alors, pour clore cette émission, j'aimerais bien vous poser à vous deux une ou deux questions. Jean-Claude, tout à l'heure, vous avez parlé dans ce que vous avez dit, vous avez parlé de la biodiversité en disant que la sauvegarde s'efforce de préserver, de protéger, de développer la biodiversité à la ville comme à la campagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre conception de cette biodiversité?
Alors, je vais vous parler de la biodiversité et comment nous la protégeons.
Mmh.
La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces animales et végétales, sur la Terre, leur patrimoine aussi génétique, à ces espèces végétales et animales, et puis leur milieu écologique. Donc c'est ça la diversité écologique du monde naturel. C'est un monde, c'est le résultat de 3,4 milliards d'années d'évolution de la nature, de notre Terre. Comment on la protège ? On la protège par les lois de l'environnement, qui sont issues d'une multitude de textes et de conférences internationales, européennes, nationales, les COP XXX, et puis les conventions Ramsar, le classement des zones humides, le classement des espaces boisés, les SNIEF, les zones prioritaires de la biodiversité. Et donc tous ces textes sont réunis dans le Code de l'environnement, et c'est par ces articles du Code de l'environnement que nous intervenons auprès des porteurs de projets, auprès du préfet, auprès des collectivités, quand il y a des aménagements prévus ou des textes, des documents, par exemple, d'urbanisme.
Alors, d'accord, et l'environnement, vous le concevez au sens, un sens large, un sens plus restreint, la nature, plus que la nature, moins que la nature. Claire, comment vous concevez cette notion d'environnement ?
Je dirais que si Jean-Claude a défini la biodiversité comme l'élément, disons, naturel de la nature, moi je dirais que l'environnement est défini par l'action de l'homme. Oui. Et on peut le définir aussi comme une interaction de différents éléments naturels, humains, socio-économiques, culturels, dont l'objectif est justement d'assurer un cadre de vie, que je dirais de qualité, sain, sécurisant et durable pour l'homme, puisqu'il joue, et c'est d'où son rôle, d'avoir notamment le soin et le souci de cet environnement.
Alors, bien, est-ce que vous pensez que actuellement, ce souci de l'environnement est quand même une réelle et que les gens sont préoccupés par leur cadre de vie et le défendent même ? Plus peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans.
Oui, je crois qu'il y a une vraie sensibilisation à ce cadre de vie, à ce que demain sera, justement. Et c'est une préoccupation qu'on voit, entre autres, sur les générations actuelles, enfin les plus jeunes. Et puis peut-être parce que, pédagogiquement, il y a un gros travail qui est fait également dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il y a une vraie sensibilité. Et qui n'est pas le fait que de certaines disciplines, je dirais biologie, géologie, mais aussi de l'ensemble des disciplines que l'on peut enseigner à un jeune. Voilà, donc là aussi, c'est au carrefour de l'interaction de ces disciplines.
Vous êtes d'accord, Jean-Claude ?
Oui, bien que il y a une différence entre la parole et les actes, et que c'est vrai que il nous faut une certaine vigilance et on sollicite les concitoyens, les habitants pour justement être vigilants et on a mis en place, grâce aux deux permanents de France Nature Environnement des Pays de la Loire, une application sur Sentinelle de la Nature qui leur permet de nous prévenir quand il y a des atteintes à l'environnement. Donc il faut que les gens se mobilisent, il faut qu'ils nous préviennent et qu'on les aide aussi à défendre leur cadre de vie.
Bien. Eh bien, merci Claire, merci Jean-Claude. Grâce à vous et à d'autres, la sauvegarde pourra continuer à jouer son rôle de sentinelle vigilante.
Merci.
C'était Solidaire Monde, l'émission préparée par le collectif Solidaire Monde. Merci de l'avoir écouté. Vous pourrez la réécouter en podcast sur www.radio-g.fr. La prochaine émission aura lieu le 9 janvier 2020 et donnera la parole à l'association Aide et Accueil d'Angers qui fait vivre un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, sur Angers. Aujourd'hui, c'était Jacques à la technique et André à l'animation. À bientôt.